Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis, nous retrouvons sur les ondes de Radio Présence et nous essayons de capter quelque chose de ce chant de l'arc qui était l'élégie de David à la fin de la bataille de on appelle de Gelboé. Gelboé, c'est ces montagnes qui se trouvent vers le nord d'Israël actuellement et de la Palestine. Et donc c'est un chant qui met en valeur et met en honneur particulièrement le roi Saül et puis son fils Jonathan qui sont morts sur ces montagnes. Et tout particulièrement le chant de David, cette élégie de David célèbre à la fois surtout Jonathan qui est à la fois le guerrier et l'ami du roi David. Et donc nous continuons notre commentaire de cela, et la strophe en particulier sur laquelle nous arrivions est la suivante. « Montagne de Gelboé, ni rosée ni pluie sur vous, campagne traîtresse, puisqu'il fut déshonoré le bouclier des héros. » Et David là, prend à partie, c'est la même chose qui se passe souvent dans la poésie, les montagnes qui n'épeuvent rien, les pauvres, c'est comme la morne plaine de Waterloo, par exemple, dans d'autres histoires. Et la formule se poursuit, donc il y a une très belle antienne grégorienne qui chante « Montez Gelboé, nec pluvia, nec gros, descendant supervos », est une antienne très très belle. Et le bouclier, continue la strophe, le bouclier de Saül n'était pas oint d'huile, mais du sang des blessés, de la graisse des guerriers. Vous voyez, c'est assez fort. « L'arc de Jonathan jamais ne recula, ni l'épée de Saül ne revint inutile. » David magnifie ici la bravoure de Saül et de Jonathan. Le premier n'avait pas besoin d'huile pour son bouclier comme c'était la coutume, tant il était graissé du sang de ses victimes. Mon Dieu. Le second était passé maître dans le maniement de l'arc grâce à des exercices à la cible dont parle d'ailleurs telle ou telle page du premier livre de Samuel. Et cette évocation de l'arc de Jonathan, et sans doute l'origine du titre de la complainte qu'on appelle le chant de l'arc. Il n'est donc pas question de reprocher au héros en question, ça a eu de Jonathan, une quelconque faiblesse, et la strophe suivante va chanter encore leur qualité. Et magnifiquement, là, beaucoup plus délicatement que la strophe que nous venons de lire, avec la graisse des victimes. Saül et Jonathan, aimés et charmants, dans la vie et dans la mort ne furent pas séparés. Plus que les aigles, ils étaient rapides. Plus que les lions, ils étaient forts. Et la seconde partie de l'ode funèbre passe de la note épique à celle de la tendresse. Le premier vers, qui est le sommet de l'antienne grégorienne Montez Gelboé, parle des noms des disparus, Jonathan et David, est un cri de douleur qui se prolonge en une effusion du cœur « Amabiles et Decori Valde ». Donc le père et le fils sont aimés et ils sont beaux. Aimés et charmants, dit la traduction. Il est sûr que l'amitié de David pour Jonathan remonte jusqu'à Saül, qui n'était rien moins qu'aimable à l'endroit du vainqueur de Goliath. Mais cet oubli total des injures et des injustices jette une vive lumière sur l'âme noble du bien-aimé de Dieu. Vous savez que c'est le sens du mot David en hébreu. C'est pour Dieu d'abord, en effet, que David est le roi aimé et le prince plein de charme. David est le bien-aimé. Et David lui-même, ce bien-aimé, salue Saül, il oublie ses injures, etc. Et Jonathan, son ami, Dieu donné, de ce nom de aimé, et charmant. Le deuxième vers souligne la fidélité de Jonathan à son père, alors même que celui-ci persécutait son ami, l'âme de son âme. Ce don de Dieu qu'il est, car tel est le sens, nous l'avons déjà dit, du nom de Jonathan en hébreu, don de Dieu ou Dieu donné, donné par Dieu, et donc il est tant pour Saül que pour David, est allé lui aussi, comme son père, jusqu'au bout de son devoir. Comme dit un auteur, Jonathan, comme la grâce, accompagne son père jusqu'aux ultimes instants, puis meurt. À son père et à David, Jonathan a été don de soi, don de Dieu, sans retour et sans reproche. On peut penser que son sacrifice discret sanctifie jusqu'à la mort de son père. La strophe suivante dit ceci. Fille d'Israël, pleurez sur Saül qui vous revêtait d'écarlate et de lin fin, qui accrochait des joyaux d'or à vos vêtements. Les filles des Philistins se réjouissent du désastre d'Israël sur les montagnes de Gelboé, mais les filles du peuple de Dieu, elles, se lamentent. Les victoires se sont changées en déroute, plus de butin, c'est-à-dire plus de beaux habits ni de bijoux pour les femmes. Le rude cantique de Déborah nous revient à la mémoire au moment où la mère de Sisera se demande pourquoi son fils tarde à rentrer, et qui avait été tué par Déborah précisément. Sans doute, c'est la maman de ce chef qui se le dit, voyant son fils qui n'arrivait pas, sans doute il partage le butin, une jeune fille, deux jeunes filles par guerrier, un butin d'étoffe de couleur brodée pour Sisera, une broderie, deux broderies pour mon cou. C'est le livre des Juges au chapitre 5. Nous nous souvenons que Dieu ne voulait pas de roi pour Israël, puisqu'il est lui-même roi de son peuple. Pas plus que Samuel, il n'a aimé la revendication des Israélites, établit pour nous un roi pour qu'il nous juge comme toutes les nations. Et Dieu et son porte-parole marquent fortement les inconvénients de la royauté. Voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrerie et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Au moment de la mort de Saül, le premier roi d'Israël, il ne semble pas que l'on garde pourtant de lui un souvenir négatif. Il n'a pas abusé de son droit. En particulier, les femmes ne se plaignent pas d'avoir été exploitées. Au contraire, elles regrettent la libéralité de Saül après ses victoires. C'est encore une note positive pour le portrait du roi défunt.